Tout le monde veut devenir un héros de la vente, mais personne ne veut s'entraîner comme un champion. Si tu écoutes ce podcast, tu fais déjà partie des 10% des meilleurs vendeurs. Mais j'ai encore quelques secrets qui pourraient te permettre d'aller au-delà de tes espérances. Tu veux les connaître? J'ai un bon deal pour toi. Va sur le site lesherosdelavente.com, télécharge le playbook de vente, c'est le recueil de tous mes meilleurs conseils que j'obtiens dans le podcast. Fonce les découvrir et tu auras les fondamentaux pour progresser à vitesse grand V et rejoindre le cercle très fermé des héros de la vente. J'ai rajouté un conseil à la fin du playbook, en bonus, qui est pour moi le secret ultime que tous les vendeurs voudraient connaître. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode les héros de la vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Kevin Mamode. Kevin, salut.
Salut.
Alors Kevin, est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs pourquoi c'est intéressant de t'écouter aujourd'hui dans le podcast Les Héros de la Vente ?
Ouais, bah, Kevin Mamode, je suis le fondateur de Lala Leads. Lala Leads, on est une agence de prospection commerciale externalisée qui existe depuis 2017. Donc ça fait depuis 2017 que mon métier, c'est de gérer des sales, piloter des sales pour faire de la prospection et maintenant du closing. Et avant ça, j'ai un parcours orienté autour du sales B2B, autour de salons, d'autres boîtes B2B que j'ai lancées. Et donc, je voudrais capitaliser là-dessus pour partager un maximum d'insight pour ceux que ça intéresse.
Très bien. Aujourd'hui, chez Lala Leads, vous êtes combien ?
On a une trentaine aujourd'hui.
Ok.
Une trentaine aujourd'hui, j'espère le double d'ici la fin d'année prochaine. On va pas dire la fin d'année, sinon ça va être un peu trop coriace, mais ça bouge bien.
Ok, très bien. Tu voulais, alors toi, avec Lala Leads, tu aides les entreprises à aller chercher des leads et des rendez-vous, comme le nom l'indique, c'est bien, c'est pratique. Et aujourd'hui, tu voulais nous parler de la performance des commerciaux, et notamment de savoir comment maintenir la performance des commerciaux à l'ère de l'IA, en prospection notamment. Pourquoi tu as formulé comme ça le sujet ? Pourquoi tu voulais nous parler de ce sujet aujourd'hui ?
Parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, parce que c'est le cœur de notre métier chez Lala.
Ouais.
Les boîtes viennent nous voir parce qu'elles ont des problématiques sales, de générer des rendez-vous, soit parce qu'elles n'ont pas les ressources nécessaires, soit parce que... Il y a des départs, des arrivées, il y a du volume complémentaire à générer. Et on se rend compte que le métier de sales est un métier où il y a un gros turnover. On a la chance chez nous de ne pas trop en avoir et on a essayé de se poser la question de pourquoi on avait une structure sales comme celle-là. Et donc, l'idée, c'est de partager et de capitaliser sur comment on incentive nos sales, comment on les motive, comment on les variabilise, comment on les pilote et on leur permet de rester performants, notamment avec les solutions d'IA aujourd'hui. Et ça, pour le déployer chez des boîtes en interne.
Ok, très bien. Donc, vous avez compris, aujourd'hui, on va parler de la fonction de sales, notamment la fonction SDR. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer SDR rapidement pour les auditeurs qui ne connaissent pas ?
Ouais. Dans le process commercial global, il y a trois typologies de profils, on va dire trois grosses familles de profils qui vont travailler. Il y a le closer, le commercial tradi qui lui a pour mission d'être le spécialiste du produit ou du service et qui va le convertir en client, donc qui va être le relationnel dans le temps. Le SDR, c'est le profil qui va être le premier lien de confiance avec vos futurs clients. Donc, c'est le profil qui est un semi-spécialiste, qui va faire le relationnel, aller chercher le prospect par rapport à ce qui, aux intents qu'il peut avoir et aux affinités qu'il peut avoir avec votre produit ou votre service, et qui va créer ce lien-là. Et enfin, le troisième profil qui rentre dans la boucle du processus sales, c'est ce qu'on appelle le growth en startup. C'est le profil qui a pour mission de paramétrer les outils, créer les bases de données et d'alimenter le SDR en bases de données qualifiées.
Très bien. Donc là, tu vas expliquer aux auditeurs comment mettre le SDR dans un process commercial et comment surtout bien l'agencer. Et donc, on va commencer notamment par expliquer comment bien définir des objectifs pour un SDR. Est-ce que tu peux nous expliquer, toi, comment tu fais ? Parce que j'imagine qu'avec Lala Leads, la plupart de tes commerciaux, ce sont des SDR.
Tout à fait. Ouais. Désolé.
Pas de souci.
Pour objectifier un SDR, déjà, il faut qu'il ait un objectif clair et défini dans le temps. Donc, bon, comment définir un objectif au sens large ? Je ne vais pas trop m'étaler dessus. Mais l'idée, c'est d'avoir un objectif clair. L'objectif du SDR, c'est d'alimenter en rendez-vous qualifié qui close le commercial ou la compte exécutive en fonction de votre fonctionnement d'entreprise. Donc, il est objectivé et nous, on fait ça à chaque fois sur un nombre de rendez-vous à générer. La question qui a se posé, c'est comment on définit ce nombre de rendez-vous à générer. Donc, soit par l'expérience, parce que avant d'aller chercher et d'intégrer des SDR, la fonction SDR, sans la nommer, était gérée par le commercial sur le nombre d'appels qui passaient, combien de rendez-vous ils prenaient, quels sont les objectifs qu'on peut donner du coup par rapport à ça. Mais l'objectif principal, c'est de se dire combien de rendez-vous qualifiés qui convertissent il faut générer.
Très bien. Et alors, c'est vraiment important dans ces fonctions-là. Il y a beaucoup de choses qui sont importantes. Mais moi, j'ai connu des boîtes où finalement, on prenait des jeunes et on leur disait, on leur donnait un téléphone une cible et on leur disait « débrouille-toi ». Et en fait, pour que le SDR performe, il lui faut notamment des bases de données de qualité, de la data. Ça, c'est important, j'imagine, dans son travail.
Ouais.
Comment vous faites-vous chez LalaLeads pour donner des données de qualité?
Très, très bonne remarque. En fait, globalement, le SDR, son boulot, c'est de travailler de la base de données pour générer des rendez-vous. Dans certaines boîtes, il va faire les deux. Il va aller créer sa base de données et la travailler parce que la boîte n'a pas les moyens de payer deux profils pour gérer tout ça. Et dans d'autres boîtes, il va avoir simplement une fonction relationnelle. Chez nous, pour le compte de nos clients, le SDR, il a une fonction relationnelle, c'est-à-dire qu'il travaille une base de données très précise, travaillée en amont par un profil qu'on appelle Growth Sales.
Okay.
Quelle est la valeur de cette base de données? C'est une base de données qui a été créée pour donc des typologies d'entreprise, typologies de job qui correspondent à la cible que vous voulez travailler. Et au-delà de ça, on ajoute ce qu'on appelle des intent, donc qui sont des éléments marché qui vont permettre d'aller déclencher une relation. Je ne sais pas, ça peut être un recrutement, ça peut être un moment dans le cycle de vie du marché. Donc, je ne sais pas, quand on prospecte des comptables au moment de la clôture, par exemple, quand on va aller travailler des personnes qui vont participer à un salon. Là, on est en train de lancer une campagne pour un client sur tous les gens qui ont participé au dernier salon RH. Bon, c'est à peu près ça. C'est identifions des intents qui sont des moyens qui permettent d'aller déclencher un échange et un intérêt. Utilisation d'une technologie, bon, il y en a plein, mais en tout cas, une bonne base de données, c'est primordial pour que le SDR puisse s'épanouir dans son job.
Ouais, très bien. Donc, si je résume, tu as ta fonction growth qui va aller scraper des bases de données. Scraper, ça veut dire aspirer des bases de données, les mettre en forme et aller les donner. Donc, les bases de données, c'est des noms, des emails, des numéros de téléphone, des informations, comme tu l'as dit. Et là, tu vas avoir ton SDR, on va dire ton chasseur, si on prend un mot un peu old school commercial, qui va pouvoir aller contacter ces personnes et les appeler et créer un rendez-vous.
Tout à fait. Bah, c'est plus que les appeler, c'est vraiment... Oui. Nous, on travaille en multicanal, c'est email, LinkedIn, téléphone, courrier, fax. On bosse encore avec des mairies, on va aller travailler au fax, tu vois.
Okay.
Mais l'idée, c'est rentrer en contact avec ses prospects pour identifier s'il y a un besoin et si on peut déclencher un échange avec le profil d'après, qui est la compte exécutive.
Okay.
Si vous avez une base de données qui est trop large, votre SDR, il va passer des appels dans tous les sens, il va déclencher des rendez-vous qui ne closeront pas. Et donc, vous allez vous retrouver avec un commercial derrière qui n'aura même plus d'intérêt à prendre les rendez-vous de votre SDR. Si au contraire, vous avez des bases trop précises, bah, vous allez avoir trop peu de rendez-vous. Donc, l'idée, c'est d'avoir une approche, on va dire, en trois phases. Nous, on travaille en one-to-many, one-to-few, one-to-one. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a, sur une base de données de 1000 contacts, on va faire... on va dire 60% de base de données large et semi-large. Donc, on va dire que vos ICP, c'est les directeurs marketing de start-up. Donc, vos cibles précises sont les directeurs marketing de start-up. Et ben on va dire que ça, c'est la base one-to-many, donc la base large. Et ensuite, on va se dire que vous avez beaucoup plus d'appétence pour les directeurs marketing de start-up qui utilisent telle technologie. Et donc là, on va avoir en dessous des multitudes de bases de données plus précises qu'on va appeler one-to-few. Donc, les utilisateurs de HubSpot, les utilisateurs de Pipedrive, les utilisateurs de Zoho, etc., etc. Et enfin, la base one-to-one, qui est un peu le travail de chasseur, où là, vous allez vous dire, j'ai 10 entreprises avec lesquelles je veux bosser, et le rôle du SDR, ça va être de trouver, par n'importe quel moyen, le contact de la bonne personne dans l'entreprise et avoir un oui ou un non.
Ouais, très bien. Oui, c'est vrai que dans la prospection, notamment grâce aux outils d'automatisation et maintenant les outils IA, on a tendance à vouloir jeter un filet, bombarder de messages de prospection de nombreuses cibles, alors qu'en fait, le travail dont tu parles, c'est vraiment de réduire la cible pour aller chercher des gens, des cibles hyper qualifiées et avoir les bons messages au bon moment, bien travailler. Et c'est ça qui est important en fait dans le travail de SDR. C'est pas juste faire tourner des robots pour aller contacter des milliers et des milliers de personnes, quoi.
Exactement. À partir du moment où tu as une bonne base de données, qu'elle est bien structurée, là, tu peux commencer à piloter efficacement SDR. Il n'y aura pas de « je n'ai pas atteint mon objectif parce que la base n'était pas bonne », etc. On donne tous les moyens au SDR en place pour aller atteindre ses objectifs. Et ensuite, par contre, on atteste de l'atteinte de ses objectifs avec différents éléments. Quand on réfléchit par la partie mail, c'est combien de mails j'ai envoyé, combien de personnes m'ont répondu, combien de rendez-vous j'ai pris sur les personnes qui m'ont répondu ou qui ont vu mes mails.
Ouais.
Sur la partie de téléphone, ça va être sur le nombre de personnes que j'ai pitchées combien de rendez-vous j'ai eu, donc le taux de meeting sur pitch. C'est important de différencier le taux de meeting sur pitch sur le taux de meeting sur le nombre de pitch que j'ai fait, donc le nombre d'appels argumentés, que le taux de meeting sur le nombre d'appels total passés. Parce qu'il y a des cibles qui sont difficilement joignables. Plus vous allez monter haut dans la hiérarchie, plus vous allez monter haut dans la taille de boîte, plus ça va être compliqué, on va dire de manière habituelle, de joindre des prospects par téléphone. Et donc c'est important d'avoir un pilotage, non pas au volume, sauf pour le nombre de rendez-vous bien évidemment, mais au taux de prise de rendez-vous, pour savoir si votre SDR il performe par rapport à la moyenne ou non.
Oui, en gros, tu as des cibles qui sont plus difficiles à avoir que d'autres. Tu vas nous donner des exemples. Et donc, il faut faire attention à ça. Il ne faut pas juste dire à ton commercial, tu dois prendre 10 rendez-vous par jour. Ça, c'est, tu vas aller l'envoyer dans le mur. Est-ce que tu peux nous donner des exemples, des bonnes pratiques quand tu veux avoir les fameux KPI à suivre? Les KPI, c'est les objectifs à suivre. Est-ce que tu peux nous donner, quelqu'un qui nous écoute, qui a un ou plusieurs commerciaux, lui donner un peu des bonnes pratiques sur... tu avais parlé du taux de rendez-vous. Est-ce que tu as d'autres choses à suivre dans ces fameux KPI?
Ouais. Pour un sales, c'est le taux de rendez-vous sur le nombre de pitch,
ouais,
quand on réfléchit par téléphone. Et après, c'est les activités sales au quotidien. Donc, pour la partie mail, c'est le taux de reply, le taux d'ouverture, le taux d'échange actif suite à l'envoi d'un email ou d'une séquence de mail. Donc, ça, c'est quand on réfléchit par rapport aux outils de séquençage mail. C'est à peu près pareil quand on travaille de manière manuelle en envoyant des emails. C'est sur le nombre de personnes que j'ai contactées, combien m'ont réellement répondu, avec qui j'ai commencé une relation. Et après, quand on a plusieurs sales, il y a une notion importante à comparer, c'est l'écart type. L'écart type entre, ouais, le sales qui va prendre le plus de rendez-vous sur le nombre de personnes qu'il a eu et le sales qui va prendre le moins de nombre de rendez-vous sur le nombre de personnes qu'il a eu. Et c'est dans ces moments-là où il faut rentrer un peu dans le dur, écouter les appels, comprendre pourquoi il y en a un qui prend plus de rendez-vous que l'autre, comprendre aussi quels sont les éléments du discours qui vont être game changer, et c'est là où les nouvelles solutions, on va dire, d'IA font leur apparition dans le management des sales qui n'existait pas auparavant. Avant, tu écoutais tous tes appels et tu faisais un peu une analyse globale. Maintenant, il y a tellement de solutions qui te permettent d'analyser les échanges, donc des solutions comme Praise, comme Mojo, qui vont te permettre de retranscrire les appels de tes sales et ensuite d'aller les prompter. Nous, on a déployé une machine aujourd'hui autour de Praise où, en fait, quand on a un rendez-vous, on sait pourquoi on a eu un rendez-vous parce qu'on a un prompt qui vient aller se positionner sur l'appel pour essayer de comprendre pourquoi on a pris ce rendez-vous-là.
Okay.
Et surtout, quand on a eu un pitch, quand on a eu la personne au bout du fil, qu'on a parlé, qu'on lui a fait la présentation globale et qu'on n'a pas eu de rendez-vous, on est en capacité de comprendre pourquoi on n'a pas eu ce rendez-vous. Est-ce que c'est parce que la personne elle est réfractaire aux démarches de prospection? Et il y en a de plus en plus. Est-ce que c'est parce que, en fait, on n'est pas au bon moment, mais le produit reste intéressant? Est-ce que c'est parce que j'ai peut-être pas assez misé sur tel ou tel aspect de mon service qui potentiellement pouvait être intéressant? Et donc là, il y a un sujet formation, accompagnement, pour que mon SDR il monte en compétence et qu'il soit en capacité de pousser cet écart type vers le haut.
Ouais. Ouais, tu nous dis donc qu'il y a des écarts de niveau entre les commerciaux et c'est normal. Et en fait, tu essayes d'homogénéiser tout ça. Alors, avec de l'accompagnement humain, tu vas nous expliquer chez toi qui fait ça, mais aussi avec des outils. Alors, tu prêches un convaincu. Hein. Moi, j'ai créé un outil en 2018 pour analyser les visios des commerciaux. Bon, c'était avant l'IA, donc j'étais un peu trop en avance de phase. Mais donc voilà, qui fait ça chez vous et quel est son rôle exact? Déjà, quel est le nom de son poste?
C'est un Sales Enablement Manager, donc on met des anglicismes partout, ouais. Mais en gros, c'est un responsable de la performance plus.
Ouais.
Et lui, son boulot, c'est un mix entre de la data et de l'humain. Donc la data, c'est analyser sur toutes les missions qu'on a, les dashboards qui sont connectés. On utilise notamment un outil qui s'appelle Databox qui permet de faire une analyse prédictive par rapport au connecté, au pitch, etc., identifier là où il y a besoin d'intervenir. Et une fois qu'on a analysé les éléments grâce à la data où il faut intervenir, c'est de rentrer dans l'humain. Donc, écouter les appels, faire des coachings avec les sales, faire intervenir sur des séances de jeu de rôle les sales qui performent le plus avec les sales qui performent le moins sur un même sujet. Il y a des sales qui vont avoir beaucoup plus de facilité à passer les barrières secrétaires quand on travaille sur des fixes, par exemple, et d'autres moins. Et donc, c'est intéressant de les faire échanger pour justement que les uns apprennent des autres. Y en a d'autres qui vont être beaucoup plus efficaces avec tel type de persona. Il y en a qui bossent mieux avec des DSI, d'autres avec des directeurs marketing, d'autres avec des personas légaux. Et donc l'idée, c'est de faire échanger les pairs entre eux pour les monter en compétences. Et donc, c'est ça le rôle du Sales Enablement Manager chez nous, responsable de la performance, qui va aller justement analyser la data, structurer cette data. Donc, je t'expliquerai un peu après comment on structure cette data et on capitalise dessus pour les sales qui vont monter ensuite en compétences. Et former les SDR sur le terrain pour avoir une, on va dire, une compétence qui soit linéaire, et que tout le monde ait un niveau poussé vers le haut.
Ok. Alors, c'est vrai que le Sales Enablement Manager aux États-Unis, c'est maintenant c'est vraiment un poste. Dans 60% des entreprises tech B2B, tu as ce poste-là. C'est un poste qui est très courant. En France, j'avais regardé la dernière fois sur LinkedIn, je pense que tu en as peut-être 40 en France qui existent, en tout cas qui ont ce nom sur LinkedIn. Donc, c'est encore assez rare. Alors, peut-être qu'il y a certaines boîtes qui ne l'appellent pas comme ça, hein, qui vont l'appeler, formateur, interne, tu sais, simplement. Mais est-ce que tu peux nous expliquer si cette personne a mis des routines en place dans le calendrier de ses sales? Par exemple, tu as parlé des jeux de rôle. Est-ce que c'est une fois par semaine? Est-ce qu'il y a des écoutes d'appels, c'est quotidien? Est-ce que tu peux nous expliquer comment c'est routinisé, ou si c'est pas du tout routinisé, c'est en fonction des objectifs de chacun?
On le structure. Ouais. Pour l'instant, c'est structuré avec des séances d'écoute qui sont une bonne partie de la journée de ce profil-là. C'est-à-dire qu'il va écouter un peu tous les rendez-vous qu'on a eus, tous les pitchs qu'on a eus, et il va échanger avec les différents chefs de projet par rapport aux missions, pour savoir est-ce que c'est bien, est-ce qu'il y a des éléments à travailler. Et il va être alerté comme ça par la structure managériale des projets ou les clients ou les performances sur où est-ce qu'il doit intervenir. Donc, il y a une grosse partie veille, donc qui va représenter, on va dire, une bonne moitié du boulot. Ensuite, il y a un quart qui va être la partie coaching. Donc, c'est à partir du moment où on a identifié des éléments de travail, il y a des formations. Donc, il va échanger à peu près avec au moins une fois par semaine avec chaque sales de chez nous par rapport à un sujet donné, donc soit en collectif, soit en individuel. Et après, il y a une partie documentation. C'est-à-dire que quand on écoute les appels et qu'on est en capacité de comprendre ce qui est bien et ce qui est mauvais dans un appel, ou ce qui est à travailler ou ce qui est à ne plus faire parce qu'on se rend compte que ça ne marche pas pour ce client, c'est important parce qu'il y a des choses qui marchent pour certains types de produits et pas pour d'autres, ça lui permet de documenter tout ça. Et donc là, on a son boulot, au-delà d'être un coach, c'est un boulot de documentation pour améliorer les ressources sales, les battle cards, la documentation, le script des différentes missions, pour permettre aux commerciaux qui vont monter sur la mission de monter vite en compétences, mais aussi pour donner de l'information de notre côté au client qui, derrière, va potentiellement internaliser à moyen terme sa fonction de prospection.
Tu peux expliquer les battle cards ?
Ouais, les battle cards, ça va être... Alors, ça peut être par concurrent, par exemple. C'est par rapport à tel ou tel type de concurrent, comment je me différencie. C'est-à-dire que si je suis avec quelqu'un au téléphone et qu'il utilise telle solution et que moi, j'ai une solution concurrente, l'idée, c'est pas de dire « Ah, bah c'est génial, ils font ça, mais nous, on fait ça de mieux. » C'est amener le truc subtilement. Si on m'évoque tel concurrent, je sais que moi, je fais ça différemment. Si on m'évoque telle problématique, je sais que moi, je peux m'interférer dans telle problématique. Et en fait, ça permet de rendre semi-spécialiste un SDR sur le produit ou le service sur lequel il va travailler, parce qu'à la différence d'un commercial, d'un account exécutif en startup et commercial dans une boîte un peu plus tradie, le SDR, il n'est pas spécialiste. Sa mission, ce n'est pas d'être spécialiste. Sa mission, c'est d'aller créer du lien. S'il se forme trop et qu'il est trop spécialiste du produit, il va trop parler du produit. Ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est de générer du rendez-vous. Okay. Mais pour générer du rendez-vous, il faut qu'il génère du rendez-vous qui est en capacité de closer, donc comprendre un minimum qu'est-ce que c'est qu'une qualité de rendez-vous suffisante.
Ok. En termes d'outils, tu as dit on utilise Praise pour les visios. J'imagine tu utilises un outil pour les appels. Vous utilisez quoi?
Alors, Praise, ça va vraiment s'interfacer sur tous les outils visio, appels.
Ah, appels aussi téléphoniques, ouais. Ok.
Ah ouais, parce que du coup, quand on fait de la prospection, on utilise AirCall. Oui. On a interfacé Praise et AirCall.
D'accord, ok.
Ce qui fait que quand on va appeler un prospect qu'on va connecter, on va avoir la retranscription qui va arriver sur Praise.
Très bien.
Donc, pour des raisons de RGPD, on n'a pas le droit de capitaliser là-dessus aujourd'hui.
Ah oui.
Mais par contre, ce qu'on a le droit de faire, c'est prompter tout ça pour aller ressortir de cette discussion des éléments importants et les mettre directement dans le CRM. Donc, on se retrouve avec une... grâce à l'IA, grâce à ces outils qui sont interconnectés, donc AirCall sur les appels, le CRM, donc ça peut être HubSpot, Pipedrive, Salesforce, ce que tu veux.
Vous utilisez quoi en CRM?
On utilise HubSpot.
Ouais, très bien.
Donc, ça va venir enrichir le CRM. Et ensuite... tu vas utiliser la donnée à partir de ton CRM, qui est un peu ta base de données brute, pour aller comprendre ce qui se passe, améliorer, reporter, enfin, de notre côté, reporter au client, mais dans une entreprise, c'est reporter, on va dire, à la hiérarchie, sur pourquoi on a pris les rendez-vous, pourquoi on ne les a pas pris, quand est-ce qu'il faut relancer un prospect. En fait, il y a des éléments de discours qu'un sales à force ne va pas, un SDR, quand il l'appelle, il ne va pas forcément le noter. Et l'avantage de l'IA, c'est qu'elle rend, on va dire, obligatoire la saisie de ce champ-là. Ouais. Elle va automatiquement la déverser dans le CRM si on pose la bonne question. Et on va pouvoir revenir en arrière sur les appels qui ont été enregistrés précédemment.
Ouais, donc tu règles un gros problème dans la vente qui est...
Remplir le CRM.
Remplir le CRM. Et là, c'est presque automatique. Et donc, si je récapitule pour les auditeurs, en fait, tu as ton outil d'appel AirCall ou ton Google Meet pour la visio, Praise qui récupère les infos, qui les transcript.
C'est ça.
Et tu as un prompt ChatGPT qui récupère ce transcript, qui te fait un résumé, coaching même. On peut lui demander de faire un petit coaching sur les choses à faire peut-être, le suivi, etc. Et tout ça, c'est envoyé dans ton CRM HubSpot.
Exact.
C'est ça. C'est super.
Et après, en fait, le rôle du responsable de la performance derrière, du coup, ouais, ça va être de... Excuse-moi, désolé, parce que j'ai un peu la voix rouge aujourd'hui, j'arrête pas de tousser.
Pas de souci.
voilà. Donc, le rôle de cette personne-là, ça va être du coup de capitaliser sur ces éléments-là et de le mettre dans une base documentaire. Pour ça, on va utiliser des solutions comme... Bah, nous, on utilise Notion aujourd'hui,
ouais,
parce que ça permet vraiment d'être ultra flexible. On a testé plein d'outils marché. Il y en a un aujourd'hui qui est vraiment pas mal, qui est SalesPass,
ouais,
qui commence à être de plus en plus connu, qu'on a testé aussi. On avait notre structure sur Notion, donc on est resté sur Notion. Mais en tout cas, il y a plein d'outils qui sont en train d'évoluer là-dessus.
Très bien. Donc là, on a parlé pas mal de data, de pilotage par ton responsable performance. Mm-hmm. C'est pas mal aussi comme nom, ça, pour faire franciser le Sales Enablement Manager. Ça me fait penser au sport, tu vois, où ils font la même chose dans le sport avec l'analyse de vidéo des matchs. Et là, on va parler de la motivation des commerciaux. Comment aujourd'hui tu fais toi avec ton équipe pour motiver? Alors, on a fait des épisodes là-dessus, hein, mm-hmm, mais ce qui est intéressant, c'est de donner une mise à jour, notamment avec tout ce qui se passe avec la révolution de l'IA. Et justement, peut-être que les commerciaux se disent « Oula, j'ai mon poste qui est en danger, etc. » Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu les coulisses de ta boîte là-dessus?
Ouais, bah déjà avec toute cette data, le commercial a une visibilité globale sur l'atteinte de ses objectifs. Ouais. Par mission, il sait où est-ce qu'il en est. Est-ce qu'on atteint le nombre de rendez-vous ou pas, globalement, pour la partie SDR. Ensuite, il y a comment on exploite cette donnée pour motiver le SDR. Donc il y a historiquement la partie variable, qui est importante, parce que dans un job de sales, le variable représente une partie non négligeable,
ouais,
mais pas que. C'est-à-dire que c'est pas vrai de dire que le sales est motivé uniquement par son variable. C'était peut-être le cas avant, c'est plus le cas aujourd'hui. Donc, il y a cette partie variable. On a testé plein de modèles de variables. On a testé le modèle au rendez-vous où tu mets un variable au rendez-vous par client. On a testé le modèle de variabilisation avec le variable à la signature en complément qui va venir augmenter le variable au rendez-vous, mais qui frustre un peu le SDR parce que, en fait, il y a des process qui peuvent être un peu longs. Et aujourd'hui, on a réussi à trouver quelque chose qui est assez intéressant. C'est qu'on fonctionne en atteinte d'objectifs. Maintenant qu'on a la donnée pour être en capacité de savoir quels sont les objectifs à atteindre, on définit trois paliers de variables. Okay. 90, 100, 110. Et à partir du 110, ensuite, on déplafonne.
OK.
Mais au départ, sur une mission, admettons, on doit faire 20 rendez-vous sur le mois. Si on a fait moins de 90% de l'objectif, il n'y aura pas de variable. Ça fait partie du métier du sales. À partir de 90, ça déclenche un variable. À 100, ça déclenche un autre variable. Donc là, nous, on atteint l'objectif vis-à-vis du client. Et à 110, c'est un autre variable. Donc ça, c'est quand on a un seul sales sur une mission. Donc dans votre boîte, vous avez un seul sales. Quand on a plusieurs sales, c'est plus complexe. On a ajouté une notion qu'on a appelée l'effort de guerre, globalement. C'est-à-dire que, admettons, on sait qu'on va pouvoir redistribuer un variable de 1000 euros sur une mission donnée. Il y a 10 rendez-vous à faire, il y a un variable de 1000 euros. Bah, ce variable, il va être divisé par rapport à l'effort de guerre, ça veut dire le pourcentage de rendez-vous que j'ai pris sur la totalité. Donc, il y a une variabilisation à la fois du collectif, l'atteinte de l'objectif qu'on va atteindre ensemble, et une variabilisation de l'individuel par rapport au déplafonnement du variable par la suite et par rapport à cet effort de guerre.
OK. Donc, en gros, vous faites un peu comme dans la restauration, quand les serveurs prennent des pourboires et se partagent le butin. C'est un peu la même chose. C'est donc... tu as un objectif collectif et le variable est déclenché si l'objectif collectif est atteint. Et il y en a un qui va plus performer que d'autres, mais ce n'est pas grave.
C'est ça. Et c'est pour ça que tout le monde a intérêt à ce que tout le monde ait un niveau similaire.
Ouais.
Parce que si on n'arrive pas tous à avoir le même niveau, on n'atteindra pas l'objectif de base. Et après, le reste, c'est que du bonus.
Ok, super. Et tu peux faire un système hybride où tu as un variable collectif et un variable individuel, ou c'est pas encore le sujet ?
Décidément.
N'hésite pas à boire, hein, ouais. Si tu veux faire une pause.
Alors oui, on peut faire les deux. Si aujourd'hui on n'était pas dans cette structure en bossant en extérieur pour des boîtes, on le ferait. Ouais. Et j'ajouterais même un variable par rapport à la signature qui est fait derrière par l'account exécutif.
Okay.
L'idée, c'est quand même d'avoir une bonne relation et une bonne communication entre l'account exécutif, donc le commercial, et le SDR,
ouais,
pour justement que les rendez-vous qui soient générés soient suffisamment de qualité pour convertir. C'est toujours ça l'objectif. On n'est pas là pour générer du volume, on est là pour générer de la qualité parce qu'il faut la closer derrière.
Très bien.
Donc, tu peux variabiliser à moyen terme sur les closings, mais il faut qu'à court terme, le SDR il soit variabilisé sur l'atteinte de son objectif maîtrisable par lui et lui seul.
Ouais. Alors, sur la motivation, on comprend bien l'intérêt du variable. Tu voulais aussi me parler, tu m'en as parlé un peu en off, des challenges que vous mettez en place dans votre structure, notamment pour gamifier le quotidien des commerciaux, et des différents rituels que vous avez pour célébrer des victoires. Je sais que ça, c'est un truc, pareil, qui est important, mais que beaucoup de boîtes, finalement, ne font pas avec leurs commerciaux. Et c'est aussi pour ça qu'on a beaucoup de turnover dans les boîtes sur cette fonction-là. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que vous faites là-dessus, sur les challenges et la ritualisation des victoires ?
À mon sens, pourquoi aujourd'hui on n'a pas un si gros turnover que ça par rapport à notre structure d'activité ? C'est parce qu'au-delà du... Enfin, on a compris que le sales, ce n'était pas que du variable. Derrière, il y a une ritualisation un petit peu de tout le process. Donc... ça passe par une multitude de choses. Ça passe par à chaque fois qu'il y a une célébration, un rendez-vous. Alors, il y a des boîtes qui ont des gongs. C'est de plus en plus le cas avec notamment la série L'Agence, où ils avaient leur petit gong et tout le monde qui se met à avoir des gongs.
Tu sais que ça peut être un business, ça, de créer des gongs
c'est vrai
dédiés pour les boîtes de sales.
Franchement, je pense qu'à un moment ou un autre,
j'ai
t'en mets un qui est connecté à Slack et poum.
Voilà, exactement. Tu fais un gong connecté. Je vais faire ça.
On lance ça.
Ensemble,
c'est noté.
Ouais.
Tu vois, nous, on a un truc qu'on appelait la cloche du kiff,
ouais,
qui est positionnée au milieu du bureau. En fait, qui est une cloche où on va enregistrer un son. Donc, ouais, chacun enregistre une musique, quoi, globalement. Quand tu vas venir le sonner, ça va déclencher une musique dans le bureau. Et celui, okay, qui l'a sonné le plus dans la journée va pouvoir aller la changer. Donc, en fait, globalement, ça crée un peu une interaction et tout le monde a envie de sonner la cloche, etc. Et on célèbre à la fois les petites et les grandes victoires. Donc, on célèbre les rendez-vous, mais aussi les atteintes d'objectifs, mais aussi le fait qu'on ait mis des efforts sur certains éléments. On n'est pas que sur une approche chiffrée.
Ouais.
Donc, ça, c'est un peu ritualiser les éléments. L'autre partie rituelle, c'est faire en sorte, à chaque fois qu'on atteint les objectifs, d'aller déclencher... je sais pas moi, une activité, une action ensemble, ou en tout cas vraiment valoriser le fait qu'on ait humainement, le fait qu'on ait atteint ces objectifs là et après il y a tout ce qu'il y a autour. Donc c'est à dire que on passe notre temps quand on essaye à passer des coups de fil, envoyer des emails. C'est un job qui est, on va pas se mentir, hyper pressurisant,
ouais,
et il y a des moments où il faut souffler. Donc c'est important de déclencher des offsides, de déclencher des animations, de faire en sorte que ça soit un travail collectif et pas individuel. Si dans un bureau, tu as plein de sales qui ne s'entendent pas, tu es sûr que tu vas avoir un turnover. Donc, on déclenche, nous, chaque mois, il y a, dans chaque bureau, il y a des animations qui sont faites. Bon, ils vont aller faire un bowling, ils vont aller faire une animation, ils vont aller faire un escape game, ils vont aller faire plein de trucs. Ils ont été au salon du vin, là, ça n'a pas longtemps.
Ok.
Bon. mais en tout cas, on déclenche des animations comme ça, des séminaires, des choses comme ça. Et après, au-delà de tout ça, en fait, nous, on a la chance d'avoir des sales qui travaillent sur plusieurs missions. Donc, ils vont faire 2 jours sur une mission, 3 jours sur une autre. Au bout de 2 mois, quand ils vont s'essouffler, ils vont changer de mission. Et ça, en fait, quand tu es en entreprise, tu ne peux pas le faire. Donc, tes SDR, il faut les changer de diagonale. Quand tu as la possibilité de le faire, tu vas faire bosser ton SDR, je sais pas, sur du middle market au départ, puis après sur des comptes enterprise, sur une période où tu vas changer des SDR si tu en as plusieurs, un qui va travailler telle diagonale, tel secteur d'activité, l'autre tel secteur d'activité, ensuite tu vas les échanger. En fait, l'idée, c'est toujours créer de l'animation, éviter la routine pour que le sales ne s'ennuie pas et quand même un revenu confortable avec le variable, échange et soit dans une bonne entente dans le bureau dans lequel il évolue. Enfin,
ouais,
comme n'importe quel salarié. Mais il faut arrêter avec le sales est motivé uniquement par son variable, parce que c'est ça qui crée beaucoup de turnover dans les entreprises.
Ouais, d'ailleurs, j'ai plusieurs épisodes de podcast où des directeurs commerciaux se posent la question, hein, à un moment donné, du variable. Est-ce que, effectivement, parfois, ça peut être contre-productif parce que les sales se tirent la bourre, il y en a un qui gagne plus que l'autre, et il faut chercher d'autres leviers de motivation là-dessus. Sur les challenges, moi j'avais mis pas mal de challenges en place quand je gérais une équipe commerciale. Alors c'était des commerciaux qui passaient des appels téléphoniques à froid toute la journée, donc il fallait absolument trouver des leviers de motivation quasiment chaque jour hein, pour les motiver. Donc je faisais des challenges, j'avais un Notion justement où j'essayais de trouver à chaque fois d'innover dans les challenges, faire gagner des prix, tu vois, ça pouvait être l'appel le plus rigolo de la journée, enfin des choses comme ça, j'essayais d'être assez innovant. Est-ce que vous avez mis en place des challenges
Il y a des trucs qui se mettent un peu entre eux, c'est-à-dire essayer de placer un tel mot ou tel mot.
Ouais.
Bon, ça, je pense que tous les 16 l'ont fait.
Ouais, ouais.
Après, il y a les challenges que nous, on structure. C'est-à-dire qu'on se rend compte, par exemple, qu'il y a beaucoup plus de rendez-vous qui sont pris le matin entre 9h et 9h30. Et donc, on va mettre un challenge sur les rendez-vous qui sont pris entre telle heure et telle heure, on tombe de points et à la fin, on fait le décompte.
Ouais.
On a fait aussi des challenges sur les no-shows. Quand on se rend compte sur une mission qu'il commence à y avoir pas mal de no-shows, on essaie d'analyser le tout et on met des challenges pour éviter les no-shows. Donc, en fait, on met des malus sur les no-shows, sur un listing et on affiche un grand écran avec le challenge. Il y a des trucs un petit peu plus fun. Là, avec mon associé, on s'est mis pas mal à courir. Okay. Lui, surtout, moi, je rattrape derrière.
Okay.
Mais tu vois, du coup, on a fait un petit challenge. C'est genre, chaque fois qu'il y a un rendez-vous, on fait le décompte et nous, on se mange 50 mètres ou 100 mètres à la fin de la semaine sur un total.
Pas mal.
Et on reporte à tout le monde. Alors, nous, ça nous permet de nous remettre en forme. Et puis, les 16, ça nous permet de nous faire un peu souffrir, on va pas se mentir. Donc, tu vois, en fait, tout est bon à gamifier.
Ouais.
Du moment que ça apporte à la fois au business. Et aussi, on va dire, au bonheur au travail, quoi, au fait qu'on puisse... Bah, un challenge pour pressurer les gens, ça ne marche pas.
Ouais.
Il faut que ce challenge ait un sens, un intérêt, et que derrière, tu y gagnes quelque chose.
Oui, oui, et puis tu peux faire aussi des choses rigolos, tu sais, leur faire gagner, je sais pas, une trottinette électrique,
ouais.
Des choses comme ça. J'avais cherché, moi, à cette époque-là, des outils de gamification, justement, pour créer des challenges, notamment sur la partie téléphonique. Ben, j'étais assez surpris, mais il n'y a pas grand-chose. Hein. J'ai trouvé quelque chose, une boîte américaine, mais ce n'était pas du tout adapté aux Français, tu vois. Là aussi, il y a des auditeurs qui nous écoutent. S'ils veulent lancer des boîtes, il y a des choses à faire là-dessus.
C'est clair.
Tu connaisses, toi, des outils
En fait, j'en ai benchmarké plein et je n'ai pas trouvé ce qu'il me fallait.
Ouais.
Et en fait, on a fini... finalement, on en déclenche au cas par cas des challenges. Tu mets un bon fichier Excel avec Databox, ça reporte sur un dashboard et
c'est
fini.
C'est ça, ouais. T'as un dashboard qui est animé et qui est lié à ton fichier Excel. Ok, très bien. On a parlé un petit peu de l'IA. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu optimises toi tu nous as dit que tu documentais avec l'IA. Est-ce que tu peux peut-être nous détailler un peu l'utilisation de l'IA aujourd'hui chez Lala Leads?
Oui, bien sûr. Alors, ça intervient déjà au lancement d'une mission, c'est-à-dire qu'on va récupérer beaucoup de documentation client.
Okay.
Et sur cette documentation client, avant, il y avait le rôle de l'account manager, donc le chef de projet qui allait travailler le discours, les scripts, les scénarios de mail, etc. Donc ça, c'est toujours le cas. En revanche, il est accompagné par l'IA là-dessus. Donc, on a mis en place des GBTs avec bien paramétrés pour faire tout ça. On a nos solutions de base de données qu'on utilise au quotidien pour aller créer les bases de données. Bah, ces solutions de base de données, on les a documentées et ajoutées dans un GPTs pour justement permettre aux account managers de gagner beaucoup de temps dans la préparation.
Ouais, GPTs, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, c'est un chat GPT qui est paramétré par toi et qui est dédié à une fonction, quoi.
C'est ça. On a la chance chez nous d'avoir des profils qui sont un peu décos et qui aiment bien geek à ces trucs-là.
Ouais.
Donc en fait, on a créé plein de trucs comme ça, toujours en disant... Ça va aller aider la compte manager par rapport à sa mission au quotidien, mais ça ne va pas aller le remplacer. On va se mentir, quand ChatGPT te sort des trucs, c'est des trucs qui sont très froids, il faut les retravailler, il faut réfléchir. Des frameworks de vente, il y en a plein. Nous, on essaye toujours de s'éloigner un peu de ces frameworks quand on crée nos campagnes. On réfléchit plus aux personas, donc on aime bien aller échanger avec les personas qu'on a déjà, qu'on connaît, pour essayer de comprendre comment créer le discours. Mais c'est toujours une aide d'avoir ces solutions d'IA. Donc ça, c'est en préparation. On a les IA qui vont, du coup, les solutions comme Praise qui vont aller écouter les appels et enrichir le contenu. Donc, je te parlais au début.
Ouais.
On a aussi ces solutions-là qui vont nous permettre d'aller coacher les sales parce qu'au-delà d'aller remonter de l'information au client et de documenter, ça permet de coacher les sales. Et ensuite, on a les solutions IA connectées à la data. Donc, en fait, c'est comme on a mis en place une solution, on va dire data warehouse, donc documentation de toute notre data en un seul endroit, et ben on a... que ce soit ChatGPT ou d'autres choses qui sont connectées sur cette donnée-là et qui vont nous permettre d'aller récupérer des insights, des retours sur comment améliorer telle ou telle metrics, comment améliorer le taux de closing des clients ici, etc. etc. Et donc, c'est des points qui vont accompagner nos account managers, nos chefs de projet au quotidien dans leur relation client. Ils vont pouvoir venir poser des questions à la data avec certaines solutions qu'on a mis en place. Et c'est ça qui fera la différence.
Très bien. Donc, tu nous as dit, ChatGPT, bien sûr, Praise, Notion, SalesPass. Tu utilises Databox. Aussi Databox. Et tu m'avais dit peut-être HumanLinker, tu utilises ça
En fait, quand un HumanLinker, on l'a testé. On ne l'utilise pas vraiment au quotidien encore. On est en réflexion de le déployer ou non. En fait, l'idée, c'est que dans l'approche de prospection qu'on a au SDR, donc one to many, one to few, one to one, sur la partie chasse, one to one, tu ne peux pas te planter. Tu ne peux pas arriver avec le mauvais discours, la mauvaise façon de se présenter, la mauvaise façon d'échanger. Donc, comme nos sales ne sont pas spécialistes, mais semi-spécialistes, c'est intéressant de leur donner des outils leur permettant d'avoir le maximum d'informations pour rentrer en contact avec la personne, tout en gagnant du temps. Et HumanLinker est une des solutions qui le permet, parce qu'ils vont récupérer la donnée des sites, ils vont récupérer la donnée des rapports annuels, ils vont récupérer la donnée des LinkedIn, ils vont récupérer la donnée des recrutements, ils vont tout consolider, notamment avec leur... je ne sais plus comment il s'appelle, ce diagramme d'analyse... le disque. Sur comment communiquer directement avec telle ou telle personne. Et en fait, en combinant tout ça, en one-to-one, c'est ultra bénéfique pour la démarche et l'échange du sales.
Ouais, pour ceux qui ne connaissent pas, mais maintenant, il y a de plus en plus d'outils qui vont vous proposer ça. Mais vous allez sur le profil LinkedIn d'un prospect. Et donc là, c'est HumanLinker, mais il y a d'autres outils. En ce moment, j'en teste pas mal. Ils vont vous donner une couleur du profil, donc ça c'est la méthode DISC, un background, des messages rédigés pour des messages de prospection, alors bien sûr qu'il faut retravailler, etc. Mais c'est assez fou, moi j'aurais rêvé d'avoir ce genre de solution quand j'étais commercial, parce qu'effectivement, plutôt que de contacter quelqu'un de manière très froide et tu sais pas trop, tu vois son CV, mais bon, tu n'as pas trop d'infos, là HumanLinker va juste presque juste à te donner la personnalité de la personne, si c'est quelqu'un qui est plus directif ou quelqu'un qui est plus dans l'empathie, etc. etc. Donc ça, c'est assez bluffant. Et on va voir apparaître avec l'IA de plus en plus d'outils comme ça pour faire des messages ultra personnalisés.
En fait, l'idée, c'est d'avoir vraiment des solutions qui vont te permettre d'avoir de l'info. En revanche, il faut éviter de surexploiter cette info pour rien.
Oui.
Si dans le bilan annuel, il y a indiqué que tu vas développer telle diagonale, mais que ce n'est pas du tout de ça que tu veux parler, ça ne sert à rien de le mettre dans ton mail d'accroche.
Ouais.
Et la problématique encore aujourd'hui de ces solutions d'IA, c'est que quand tu décrives et t'écrives des messages, en fait, elles veulent surpersonnaliser au défaut que ça paraisse vraiment fait par la machine.
Too much, ouais.
Donc, c'est cool pour alimenter aujourd'hui le sales en information pour lui permettre à lui de sélectionner ce qui va être intéressant. En revanche, à mon sens, en 2024, en mars 2024, au moment où on enregistre ce podcast, c'est pas encore au niveau.
C'est pas encore au niveau. Et après, tu as aussi, attention, peut-être d'autres outils, notamment, moi j'utilise Nomination, qui te permettent d'aller chercher peut-être l'information qui va te permettre de rebondir, l'actualité qui va te permettre de rebondir pour aller prospecter. Tu l'as dit tout à l'heure, des recrutements, des salons, des levées de fonds, ces choses-là, Toi, tu utilises des outils pour ça ou t'as...
Alors, Nomination, on a testé. On a déployé il n'y a pas longtemps dans notre structure outil Conizem, qui a racheté Casper il n'y a pas longtemps.
Ah oui, OK.
Donc, en termes de création de base de données, on travaille beaucoup plus de contacts. Et ça nous permet d'améliorer pas mal la qualité des bases de données qu'on va aller travailler. Et ils ont des solutions comme ça de prospection par intent, comme la Nomination. Fut une époque, Nomination, c'était les meilleurs sur le marché français. Aujourd'hui, des outils comme Conizem sont largement, on va dire, compétitifs. Et on va utiliser aussi Faro, qui est utilisé par beaucoup de commerciaux aujourd'hui, qui va nous permettre justement d'aller chercher ces intents, de faire de la chasse, d'avoir des données précises, etc. Donc, y en a de plus en plus des outils. Moi, je pense que rien ne vaut encore la recherche d'un sales. Pour te donner un exemple, c'est encore la semaine dernière, on a en prospection one-to-one. On a un sales qui a été regarder l'Instagram du prospect, globalement, qui a vu qu'elle avait fait une story sur tel sujet et qui l'a prospecté en lui parlant de sa story.
C'est vrai que j'ai fait un épisode il n'y a pas longtemps sur la prospection par lettres manuscrites, tu vois. En fait, c'est des robots qui écrivent les lettres manuscrites, mais c'était intéressant.
Et en fait, tu peux toujours innover sur la prospection. Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé, par exemple, des textos, des WhatsApp, Instagram. Et en fait, tu as plein d'autres canaux qui, j'imagine, ne sont pas exploités parce que peut-être pas B2B, mais en fait, tu pourrais te dire que si ce n'est pas exploité, il y a peut-être un truc à aller faire en faisant attention de peut-être pas dépasser la frontière entre vie pro, vie perso. C'est puisque ça. Les gens qui sont sur Instagram n'ont peut-être pas trop envie d'être sollicités. Par contre, le texto, tu vois, tu peux te dire, les gens ont des portables professionnels, le texto a un taux d'ouverture de 99%. Il ne faut peut-être pas le négliger aussi, ça.
Le texto, le message vocal, la vidéo, la surpersonnalisation, c'est des choses, en fait, oui, on peut le mettre en place sous condition que ça a un intérêt dans le cadre de la démarche.
C'est ça.
Tu vois, on va bosser avec des agences SEO, par exemple. On va aller faire des audits automatiques qu'on va aller envoyer directement en prospection. Et en fait, il y a plein d'outils qui te permettent de faire ça aujourd'hui. Donc, tu as une personnalisation de l'approche. Tu vas pouvoir afficher dans le mail les éléments d'audit. Tu vas pouvoir envoyer un message vocal LinkedIn où tu vas aller personnaliser ta voix avec l'IA si besoin de faire de la masse. S'il y a 100 contacts à faire, tu vas le faire toi-même. Ce n'est pas la peine de prendre le temps d'aller paramétrer une solution. C'est quand tu as beaucoup de contacts que tu fais ce genre de truc. Okay. Et Manuscrit, par exemple, qui est la solution d'envoi de courrier écrit à la main, nous, on l'a testé. Ça marche bien pour certaines typologies de cibles, moins pour d'autres.
Tu as Fidi aussi qui est sorti il n'y a pas longtemps.
À tester. Je ne connaissais pas.
Ils sont passés là dans le podcast. Ouais.
Je testerai. Je suis toujours à l'affût de ce genre de choses. Après, en fait, c'est si ça a un intérêt directement dans le cadre de l'échange que tu es en train de créer. Ok, tu vois, on est des humains. L'idée, c'est de créer du relationnel, pas forcément de faire de la vente. En fait, on est les héros de la vente, mais l'objectif, ça reste quand même de créer du relationnel. Et ce relationnel se base sur des choses précises qui ont un intérêt. Et si c'est faké, si c'est faux, ça ne marchera pas.
Ouais. Après, c'est vrai que ça dépend aussi de tes cibles. Tu as des cibles qui sont... Tu vois, moi, j'ai démarché des agents immobiliers. Ils ne lisent pas leur mail, par exemple. Donc, pourquoi pas un courrier, un texto Et où, par exemple, j'ai démarché les coachs de sport de haut niveau. Ils ne répondent pas au téléphone. Donc, ils ne lisent pas leur mail. Donc là, c'est le texte. Ils ne sont pas sur LinkedIn.
Mais WhatsApp, ça marche.
Donc, tu n'as plus que WhatsApp ou les textos. Quoi. C'est assez, assez rigolo de voir selon ses cibles. Écoute, Kevin, on est à 40 minutes d'entretien. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur les sujets du jour de l'accompagnement de la performance des commerciaux? Ou tu penses qu'on a fait un bon tour et on passe aux questions de la fin?
Je pense qu'on a fait un bon tour. Si je devais ajouter quand même un petit dernier truc, un peu pour résumer notre échange. C'est important pour que vos commerciaux soient performants, vos prospecteurs, vos SDR soient performants, de leur donner tous les éléments en main pour pouvoir l'être. Okay. Juger la performance d'un sales sans lui donner la bonne base de données, sans bien lui expliquer ce que c'est que le bon ICP, sans le former et sans lui donner la bonne documentation.
Il va se planter.
Il va se planter. Et en fait, c'est 100% des SDR se planteront. Alors, ouais. On a les stars qui réussiront à passer, mais il faut faire vraiment attention à ça.
Ouais. Et puis là, de tout ce dont on a dit, on est conscient hein, que c'est, ça reste des pratiques commerciales qui sont assez rares. Hein. Moi, je côtoie plein de boîtes où, par exemple, les commerciaux n'utilisent pas LinkedIn. Où, tu vois, il y a encore 90% de boîtes qui ont des commerciaux qui n'ont pas ce niveau d'exigence. Donc là, le message du jour, c'est prenez ce que vous pouvez prendre. Essayez des bonnes pratiques dont on a parlé et vous verrez déjà une amélioration de la performance au fur et à mesure. Et aussi une limitation du turnover, puisque c'est le gros problème des fonctions commerciales, hein, c'est un turnover élevé. Écoute, Kevin, si tu veux, on passe aux questions de la fin. Donc, c'est des questions en mode ping-pong hein, que tu connais sans doute. Est-ce qu'il y a une chose sur laquelle tu as passé beaucoup de temps dans la vente ou l'entrepreneuriat que je devrais éviter?
Je pense, comme tout entrepreneur un peu geek, ouais. C'est la recherche des outils au détriment du travail de fond.
Ouais, en plus, on a parlé beaucoup d'outils aujourd'hui. Donc, ne perdez pas là-dedans.
En fait, il ne faut pas se perdre dans les outils. Il faut d'abord tester, on va dire, de manière non automatisée, que ce soit de l'envoi de mail, que ce soit des réécoutes d'appels. Nous, on déploie ces solutions aujourd'hui parce qu'on sait que ça fonctionne par rapport à ce qu'on a fait avant de manière humaine. Donc, tester d'abord par soi-même, et si en le faisant par soi-même, on se rend compte que ça nous fait. On prend beaucoup de temps, trouver un outil derrière. Mais pas faire l'inverse. Pas chercher des outils et essayer absolument de les déployer.
Ouais, et puis ça, c'est applicable aux commerciaux, mais aux entrepreneurs aussi. C'est un meilleur moyen de procrastiner les outils.
Ouais, c'est clair.
Est-ce qu'il y a un changement d'état d'esprit ou une prise de conscience que tu as fait beaucoup trop tard?
Je regarde ma note, je me souviens plus de ce que je...
Tu m'avais dit la patience en préparation.
Ouais, exact. Ouais, en fait, moi, j'ai toujours été dans l'action, donc un doer, si on peut dire ça, des trucs comme ça. Et je me suis rendu compte que, tu vois, alors revenons un peu sur les outils, je donnais pas la chance au produit. Je testais quelque chose, ça marchait pas immédiatement, donc je laissais tomber. Et j'ai appris au contact de mes collègues chez Lala que, en vrai, collaborer dans le développement des outils partenaires, ça vaut le coup.
Okay.
Sur les outils que je t'ai dit qu'on a déployés, il y en a certains qu'on a déployés, et en fait, le premier mois, c'était
cata.
Et en fait, dans mon optique habituelle, bah, ça ne marche pas, on passe à autre chose, on ne perd pas de temps. Et en fait, non, le fait de co-développer les solutions marché avec ces providers de solutions fait qu'on y a beaucoup gagné. On a adapté ces solutions à notre image, ce qui fait qu'aujourd'hui, on performe mieux et parce qu'on a pris le temps. Donc, il faut savoir prendre le temps et ne pas rester bloqué à la première impression.
Ouais, la patience, mère de toutes les vertus.
Exactement.
Alors, on va parler de compétences. Est-ce que tu as des compétences que tu aurais aimé développer plus tôt? Et si tu avais une baguette magique, est-ce qu'il y a une compétence que tu rêverais d'avoir?
La compétence, je pense, qui est essentielle quand on veut avoir des fonctions de management sales aujourd'hui, c'est la data analyse. C'est-à-dire que piloter du sales à l'humain, ça marche et c'est super important. En revanche, j'ai toujours été plus sur l'humain que sur la data. Et depuis quelques années maintenant, je me suis formé à la data analyse, à la fois en termes d'outils, de récupération de bases de données, de structuration de l'information, de priorisation, d'analyse de données exploitables ou non exploitables. Et en fait, ça, c'est une compétence qui me permet maintenant de prioriser des actions. Donc avant, je priorisais par rapport à du ressenti. Maintenant, je priorise toujours par rapport à du ressenti, mais avec une information en provenance de la data qui est beaucoup plus structurée.
Ouais.
Toutes ces formats, il y a plein de formations, de MOOC, de solutions sur de la data analyse. Et je pense que c'est essentiel aujourd'hui, quand on veut avoir un métier de management, que ce soit en sales ou autre, de se former à la data.
Ouais, c'est vrai que quand j'ai dirigé ma startup pendant 5 ans, je n'avais pas assez de data. Je n'étais pas, comme on dit, data-minded. Et après, quand je suis arrivé comme directeur commercial d'une grosse startup qui justement avec des data analystes dans l'équipe, j'ai vu la différence et je me suis dit, waouh, incroyable, comment j'ai fait pour développer une boîte sans data, enfin, avec peu de data par le passé. Et j'ai vu la différence notamment sur les fonctions de vente, hein, sur le management, les bases de données, etc. Et c'est vrai que tu peux vraiment faire un sacré bond en performance avec une bonne utilisation de la data.
Ne serait-ce que pour déclencher des recrutements, tu vois.
Ouais.
Nous, on a un métier où c'est de l'humain. Donc, c'est des sales face à des ventes de prestations, face à des niveaux de performance. Donc, en fait, en analysant globalement le passé, on est en capacité de se projeter sur le futur et donc de savoir combien de personnes on doit recruter, à quel moment, combien de temps on se laisse pour les former, à partir de quel moment ils sont optimales et on les fait évoluer. Donc, ça, c'est pour la partie recrutement, évolution, donc entrepreneuriat. Pour la partie sales, c'est tout ce qu'on vient de se dire. C'est analyser l'atteinte des objectifs, la performance, quand est-ce qu'il faut intervenir, quand est-ce qu'on priorise les coachings. Quand tu as 3 sales, ça va, mais quand on a 30, sans data, tu n'y arrives pas.
Ouais. Petite question surprise que j'emprunte à Tim Ferriss et que j'aime bien. Peux-tu me donner un achat que tu as fait de moins de 100 € qui t'a changé la vie? Alors, c'est peut-être une poussette puisque tu viens d'avoir un enfant.
La poussette à moins de 100 €, j'aurais bien aimé. Ça coûte extrêmement cher, une poussette.
Je ne connais pas encore. Ouais.
mais c'est plutôt pratique. Un achat de moins de 100 € qui m'a changé la vie. Franchement, alors si on réfléchit en termes de boulot, bah c'est le CRM. Ouais, c'est super important. Et si on réfléchit en termes perso, qu'est-ce qui m'a changé la vie et qui m'a coûté de moins de 100 €? Je regarde dans ce que j'ai. Non, franchement,
t'as que des trucs plus de 100 balles.
Non, alors, j'ai des trucs à moins de 100 balles, mais est-ce que ça m'a changé la vie, tu vois?
Ça peut être un peu plus, hein, Kevin.
Alors, En vrai, je me suis pris des AirPods, tu sais, à réduction de bruit.
Oui.
Le gros casque.
Ah, le casque, ok.
Ouais, il y a un truc, c'est que comme on bosse dans un open space et il y a tout le monde, ouais. Je suis souvent alpagué ou de moi-même, j'écoute un peu ce qui se passe à droite, j'écoute les appels à gauche, ouais, etc.
Je connais bien ça.
Et j'arrive jamais à me mettre dans ma bulle. Ouais. Et donc, du coup, je reste à la fin de la journée pour bosser sur mes tâches de fond et j'y arrive pas et ça m'a complètement bloqué. Et donc, en fait, depuis que j'ai ce truc-là, j'entends rien de ce qui se passe autour et donc j'arrive bien à me concentrer pendant la journée. Donc, ça, c'est vraiment en termes de productivité. Alors, ouais. C'est plus de 100 balles les AirPods Max, mais. Il y en a plein d'autres qui sont à moins. Mais le fait d'avoir ce truc-là et pouvoir me mettre dans ma bulle et me concentrer dans les moments où j'en ai besoin, c'est ça.
Ouais, et puis tu as donné un code à tes collaborateurs quand tu as le casque, on te dérange
ouais,
pas.
Ouais, c'est ça.
bon hack de productivité, ouais. Bah écoute, génial, Kevin. Il me reste une question. Je te donne une carte blanche pour inviter quelqu'un dans le podcast. Tu la donnes à qui ?
Vu qu'on est à Toulouse et que je suis descendu là pour cet échange, j'ai deux entrepreneurs toulousains que je te recommande. Le premier, c'est Julien Monzo, qui est associé avec moi sur plusieurs boîtes, qui est un ancien sales des télécoms, un ancien mec de chez Orange qui a fait vraiment de la. Enfin, quand on est sales dans les télécoms, c'est coriace. C'est un peu comme la grande distrib. Qui aujourd'hui a monté, on va dire, un ensemble de boîtes liées aux télécoms, mais éthiques. Notamment une boîte qui s'appelle Mon Mobile Pro, qui fait du téléphone reconditionné pour les pros et des abonnements avec des dons de giga. Et en fait, il a structuré tous ses business et ses scénarios de vente autour de la vente éthique. Donc le bon produit, la bonne personne au bon moment pour apporter de la bonne valeur à la fois à la personne et à la planète. Et ça, je trouve que c'est super stylé. Et ça change de beaucoup de personnes ou de prestats dans cet univers-là. Et le deuxième, c'est Stéphane Mier, qui est le CEO de chez Demouz, pareil, entreprise toulousaine.
Ah ouais, je connais, j'étais dans les mêmes bureaux avant.
Stéphane, c'est un mec que j'ai rencontré il y a 10... Attends, combien de temps que j'ai rencontré ? 2017 ? Bon, moins de 10 ans quand même, mais qui est un entrepreneur et un sales ultra organisé, comme j'en ai rarement vu. Et il travaille notamment avec des retailers et de la vente longue et des gros cycles de relationnel avant de closer. Et ça, c'est quelque chose que moi, je ne connaissais pas et que j'ai appris avec lui. Donc, très bon profil, je pense, pour tes auditeurs.
Ok, super. Bah, écoute, merci pour tout, Kevin. Si on veut te joindre pour avoir de l'aide sur la génération de rendez-vous, on te joint sur LinkedIn.
Pour échanger en perso, avec grand plaisir via LinkedIn.
Okay.
Je ne suis pas quelqu'un de très actif sur LinkedIn, donc je suis désolé. Je réponds toujours, mais des fois, je mets un peu de temps. Et pour tout ce qui est activité ou si vous voulez faire appel à LalaLeads, n'hésitez pas à me contacter à kevin@lalaleads.io.
Ok, bah écoute, merci beaucoup. C'était un top épisode dans un lieu incroyable à Toulouse, la Voûte Studio. Donc, n'hésitez pas à venir à Toulouse pour faire des enregistrements de ce calibre. J'étais très content de faire cet épisode avec toi. Et puis, on suit tes aventures avec LalaLeads et puis avec plaisir pour te revoir dans l'Héros de la Vente prochainement.
Super, à bientôt.
Merci. Salut Kevin, à plus.
Salut.
Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Si vous voulez continuer à approfondir ces sujets, retrouvez sur le site lesherosdelavente.com l'ensemble des podcasts et également la newsletter Les Chroniques de la Vente. Donc deux fois par mois, je vous envoie toute la veille que je fais sur les nouvelles techniques de vente, les nouveaux outils, et je fais également un portrait d'un entrepreneur qui a craqué le système pour exploser ses ventes. Donc on se retrouve sur cette newsletter ou sur LinkedIn pour continuer à échanger sur ces sujets passionnants. Et n'oubliez pas de noter 5/5, le podcast, ça m'aide énormément. Belle vente à tous !